France Inter, Marion Lourd, Ali Badou, le 6-9.
7h46, le débat éco, et je suis heureux de retrouver Thomas Porcher et Dominique Seux. Bonjour messieurs.
Bonjour.
L'occasion de revenir à deux jours de la fin du Salon de l'Agriculture sur une annonce surprise du président de la République samedi dernier, celle des prix planchers. Deux jours donc de la fin du Salon de l'Agriculture. La coordination rurale, vous l'entendiez dans les journaux, mène ce matin une action coup de poing place de l'Étoile à Paris. Une centaine de ses membres ont bloqué un temps les avenues qui mènent à l'Arc de Triomphe avec des bottes de paille. Ils sont encerclés par les forces de l'ordre. Autant dire que la tension est toujours là et que le sujet qui était évoqué samedi dernier est toujours d'actualité. De quoi parle-t-on? Comment est-ce que fonctionneraient ces prix planchers? Qui est pour? Qui est contre? Et derrière cette question, il y a évidemment celle du rôle de l'État dans la fixation des prix. On va essayer avec vous d'y voir plus clair. Mais pour être honnête, chacun a compris que c'était quand même sacrément compliqué. Pour commencer, répondez en quelques mots à cette question toute simple. Comment est-ce que vous avez réagi en entendant cette proposition du président de la République? On ira sur le fond après. Thomas Porcher.
J'ai pas été surpris parce que c'est une spécialité de notre président de la République de reprendre des termes plutôt utilisés à gauche et de les vider de leur sens. Moi, je me souviens du plan de relance qui n'en était pas vraiment un, de la planification écologique qui n'est pas vraiment planifiée. Donc là, il y avait le prix plancher. On savait que ça allait accoucher d'une souris. Hein. Et d'ailleurs, Monsieur Attal, très rapidement, a montré qu'il n'y allait pas vraiment avoir de prix plancher.
Et pourtant, vous l'attendiez.
Je suis pas surpris. Alors, bien sûr, effectivement, je pense qu'un prix plancher serait nécessaire. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de prix qui ont été administrés dans l'agriculture jadis. Après, ça doit pas être une fin en soi. Derrière le prix plancher, il faut aussi changer le modèle agricole. Il faut pas protéger pour protéger.
Dominique Seux.
Comment j'ai réagi J'ai surtout vu la tête des ministres qui étaient autour, qui avaient l'air singulièrement surpris. Et si j'ai parlé à un certain nombre de conseillers ici ou là, ils étaient tout à fait surpris. Donc, moi, ce qui m'a amusé presque, c'est que en fait, Emmanuel Macron est arrivé au Salon de l'Agriculture avec une proposition pour chacun des quatre syndicats, organisations représentatives. Vous aviez pour la FNSEA, c'est la reconnaissance dans la loi de l'agriculture comme étant d'intérêt général majeur, inscription dans la loi. La coordination rurale, c'était un plan de trésorerie. Les jeunes agriculteurs, c'était un droit à l'erreur sur les normes. Et donc, pour la Confédération paysanne, les prix planchers, je n'ai pas pris ça trop au sérieux. Je me suis pas dit, il y a une révolution qui arrive.
Parce que c'était poussé par la France insoumise.
Parce que c'était... Je suis un peu d'accord avec Thomas Porcher. Les mots sont des mots valises. Mais après, il faut aller regarder. Et effectivement, Gabriel Attal, dès mardi, a remis... Alors, je ne sais pas s'il est pendu à l'heure. Je ne sais pas si c'est l'église au milieu du village. En tout cas, il a dit ce qu'il entendait, ce qu'il comprenait par prix plancher. C'est-à-dire, non pas ce qu'une partie de l'opinion a compris, c'est-à-dire des prix plafonds pour le consommateur. C'est ça que les gens ont entendu en partie, oui. Même si ça n'a rien à voir, les prix plafonds, les prix planchers. Mais Gabriel Attal a remis le sujet avec la loi Egalim, et c'est là qu'on entre dans un point très technique, qui est la loi Egalim, c'est la loi qui régit les relations entre la grande distribution, les producteurs, les industriels, et on en est à la quatrième loi, et c'est évidemment beaucoup plus technique.
Thomas Porcher.
Sur les prix planchers, en fait, il faut bien comprendre qu'à l'après-guerre, on utilise des prix planchers pour permettre aux agriculteurs d'investir et d'avoir un revenu garanti. C'était une bonne chose et le but c'était d'avoir vraiment le plus de production possible. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'on a été sur des prix à l'export.
Certains aujourd'hui, il faut comprendre prix administrés.
Bien sûr que c'est des prix administrés, mais aujourd'hui, si on mettait un prix plancher, ce serait différent parce qu'un prix plancher qui permettrait à toutes les exploitations qui ont des coûts de production différents de survivre, ce serait un prix qui serait basé sur l'exploitation finalement la moins performante. Et la moins performante, ce serait celle qui utilise le plus de normes, peut-être le moins de produits phytosanitaires ou qui serait dans une zone géographique un peu plus compliquée. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que celles qui sont très productives, qui sont des grandes exploitations, elles tireraient un profit beaucoup supérieur grâce à ce prix plancher. Donc si on utilise un prix plancher pour permettre à tout le monde d'avoir un minimum de revenus garantis, il faut changer aussi le modèle agricole. Il faut exiger qu'il y ait des normes de meilleure qualité. Il faut changer l'étendue du marché pour trouver des débouchés plutôt à l'intérieur de la France et pas avoir un modèle à l'export. Donc prix plancher Oui, mais derrière, il faut changer de modèle aussi agricole, sinon ça rime à rien.
Dominique Seul.
Bon, c'est une idée, le prix plancher qui a un peu pris l'eau quand même depuis une semaine. Oui. On en parle avec un contenu, heureusement à mes yeux, un contenu beaucoup moins puissant que celui qu'évoque Thomas Porcher.
Qu'est-ce que vous redoutez, Dominique Seul ? Qu'est-ce que vous redoutez ? C'est possible, mais, peut-être.
Non, ce serait contre-productif. Totalement contre-productif. D'abord, très vraisemblablement.
Mais qu'est-ce que vous craignez ?
Bon, pour les auditeurs, le prix plancher, c'est de dire est-ce que le prix de la matière première agricole, le prix du bovin, de l'ovin, du lait, quand il est négocié par l'industriel, est-ce que c'est intangible ? C'est-à-dire, il y a une négociation et on dit le prix du lait, c'est 420 euros les 1000 litres et on n'a pas le droit de toucher à ça. C'est ça la question dont on parle. Voilà.
D'accord.
Est-ce que c'est possible ? En réalité, ça aurait énormément d'effets désastreux si on pousse la logique jusqu'au bout. Il y a une voie de passage, mais si on pousse la logique jusqu'au bout, le prix plancher, très vite, il devient le prix plafond. Alors évidemment, vous ne pouvez plus exporter, c'est-à-dire ça ne fonctionnerait.
Ça ferait exploser les importations.
Mais évidemment, puisque
ça
tout le monde va aller
les prix
acheter,
vers le bas.
Ben, tout le monde va aller acheter à l'étranger. La condition, ce serait de fermer les frontières. Ça ne fonctionne que si on ferme les frontières. Je répète cette phrase, ça ne fonctionne que si on ferme les frontières. Est-ce qu'on veut fermer les frontières alors que 20% de ce qu'on produit en agriculture est exporté ? Ça n'a aucun sens.
Thomas Porcher.
Vous savez, à un moment, les prix qui étaient importés, s'ils ne respectaient pas un certain prix, on les refusait. Après, on peut mettre aussi des taxes pour rééquilibrer les prix que l'on importe. Mais il faudrait, encore une fois, et là-dessus, je rejoins un peu Dominique, il faudrait un certain nombre de normes pour savoir d'où viennent la provenance, parce qu'on ne peut pas avoir après un poulet ukrainien ou un poulet brésilien qui soit au même prix qu'un poulet français si on n'a pas une transparence sur la provenance et que les Brésiliens ont mis une petite prairie avec un agriculteur qui ressemblerait à un agriculteur bio. Donc il faut qu'il y ait une transparence, et c'est pour ça que ces prix ne peuvent fonctionner que s'il y a une remise en...
Donc nous sommes d'accord, sommes tous les deux d'accord pour dire...
Non, là où je suis pas d'accord...
Le prix plancher, tel qu'il a été compris médiatiquement et politiquement, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il y a une voie de passage ? Il y a une voie de passage, par exemple dans le lait. Il se passe quelque chose d'intéressant. Pendant 3 ans, ça a marché. Là, ça ne marche plus en ce moment, mais pendant 3 ans, ça a marché parce que c'est un produit relativement peu transformé et... Un accord, quand il y a une profession comme qui est un peu regroupée comme l'UNEL, qui négocie les prix avec Lactalis, par exemple, ils peuvent ou pas se mettre d'accord.
Mais vous avez vu,
en ce moment,
comme Lactalis,
ils ne se mettent pas d'accord.
C'était une cible, justement, au salon de l'agriculture.
En ce moment, ils ne se mettent pas d'accord parce que la profession dit « on veut les 1000 litres de lait à 429 euros » et Lactalis dit « pas plus de 420 ». Honnêtement, entre 420 et 429, on doit trouver un chemin de passage.
Un mot, Thomas Porcher, on va avancer dans le débat.
On pouvait pas attendre du président de la République une grande révolution là-dessus. Donc on savait que ce prix plancher était voué, finalement, à être une mesurette. Mais il faut bien avoir en tête qu'il y a énormément de prix administrés dans l'économie, que ce soit chez nous ou dans d'autres pays. Il y en a énormément.
Il y en a énormément.
Le médicament, le ticket.
C'est ce que j'allais dire. L'État intervient souvent pour fixer les prix. Alors, au sens large, ça va du SMIC au prix des médicaments, au loyer. C'est efficace ou pas ?
Mais écoutez, en fait, je vous le dis, il y a plein de prix qui sont administrés. On ne s'en rend même plus compte aujourd'hui. Mais vous savez, un prix, ce n'est pas quelque chose qui est déterminé naturellement. C'est déterminé par des structures de marché, oligopolistiques, monopolistiques.
Mais répondez, est-ce que c'est efficace ?
Mais bien sûr que c'est efficace. Regardez, le timbre postal au 19e siècle, il y a eu un gros débat. Des gens voulaient que ce timbre dépende de la distance. D'autres ont dit non, ça doit dépendre du poids de la lettre. Et bien, il y a eu un rapport de force qui a été établi et le timbre dépend du poids de la lettre. Et aujourd'hui...
Et si on arrive en 2024 ?
Mais le kilowattheure d'électricité, et bien aujourd'hui, il y a une péréquation tarifaire pour faire en sorte que dans les campagnes, on paye le même prix de l'électricité qu'en ville alors que ça coûte plus cher parce qu'il y a moins de monde. Aujourd'hui, on l'a parfaitement accepté. Donc, il y a des choses que l'on accepte, que l'on ne voit plus, alors qu'elles sont administrées.
Dominique, c'est efficace ou pas ?
Les prix administrés, il y en a un certain nombre. Mais vous avez mentionné les médicaments, c'est très intéressant.
Oui, j'ai mentionné les médicaments.
C'est l'État qui fixe les prix des médicaments en disant un maximum, l'assurance maladie ne remboursera pas. Et en tout cas, il y a un prix affiché sur la boîte.
Oui.
Et ben, le résultat, c'est qu'il y a des pénuries de médicaments puisqu'ils sont fabriqués ailleurs. Les industriels préfèrent les vendre. Les industriels préfèrent les vendre ailleurs où ils sont achetés un peu plus cher, par exemple en Allemagne. Super résultat. Vous avez mentionné, il me semble,
les loyers.
formidable, les loyers, avec le plafonnement des loyers.
Quel
on a des pénuries, ben on a des pénuries d'appartements et de logements. Il y a un chiffre qui a été publié par les professionnels il y a quelques semaines qui montre qu'on est à moins 20% dans les offres de location. Alors, il y a d'autres causes. Il y a les JO pour la région parisienne.
Ouais, bien sûr.
Vous avez le fait que les gens ont moins d'argent pour acheter et donc le turnover, les gens restent dans les appartements loués. Mais c'est une des causes, le plafonnement du loyer. Donc, on voit que la plupart du temps, ça ne marche pas.
Alors, Dominique a donné des exemples, je vais en donner d'autres. Par exemple, sur l'énergie, on a dit il faut libéraliser les marchés de l'énergie, il faut que ce soit des prix de marché. Ils vont être en dessous des prix administrés. Bah, vous savez quoi? Ils ont été au-dessus et on a créé une loi pour permettre aux gens qui ont été sur les prix de marché de revenir aux prix administrés. Donc là, on a un exemple où ça n'a pas fonctionné. Et même le Royaume-Uni, qui était un exemple de la libéralisation des marchés de l'énergie, vous savez, à partir de 2010, il a fait un revirement. Il a introduit, par exemple, des prix planchers sur le marché du carbone parce qu'il s'est rendu compte que le prix du carbone chutait. Il a mis des contrats de long terme. Donc, il a remis de l'administration.
Donc, ça existe ailleurs qu'en France, le prix plancher, ce ne serait pas une exception française.
Non, mais c'est intéressant, l'électricité. Thomas, vous mentionnez le prix de l'électricité, c'est très intéressant. Mais qui, c'est avec les boucliers tarifaires, a payé la différence? C'est le contribuable. Dizaines de milliards d'euros. Donc, on ne peut pas tout avoir. Je suis étonné d'ailleurs que vous ne mentionnez pas un autre prix administré. Enfin, en tout cas, c'est le prix du livre, le prix unique du livre.
Alors,
c'est intéressant et ça a sauvé les librairies, mais avec un petit codicille quand même. C'est que les classes moyennes peuvent acheter en librairie des livres, mais les classes populaires achètent des livres de poche. C'est pas le même produit.
Alors on va avancer justement aujourd'hui, ce vendredi 1er mars, une autre loi entre en vigueur, celle-là, la loi de Crozaille qui interdit les gros rabais sur les rayons hygiène par exemple, on en a longuement parlé au début du 6-9, c'est quelque chose qui là pour le coup a une conséquence très directe pour le consommateur.
Alors oui, Pauline Jacquot en parlait tout à l'heure à 6h20 et racontait bien ce qui se passe. L'idée, c'est de dire il n'est plus possible d'avoir des ristournes de 70-80% sur un produit d'hygiène. C'est plafonné à 34%.
Il y a un chiffre totem, 34.
Et l'objectif étant de dire il faut protéger les petits industriels, les PME, parce qu'ils ne peuvent pas suivre à moins 70%. Mais qu'est-ce qui va se passer? On le sait bien. En fait, les grandes marques vont, sur l'ensemble de leurs produits, faire moins 34 au lieu de faire sur un seul produit moins 70. Il y a quelque chose de drôle, Ali Badou.
Oui.
C'est quand même qu'on, depuis des mois, on dit il faut faire des paniers anti-inflation. Il faut que la grande distribution vende le moins cher possible. Et là, on dit non, ne vendez pas trop moins cher possible.
Thomas.
Moi, je me disais que aussi, ça allait pas être grand-chose parce que là, pareil, les industriels, c'est un oligopole, les distributeurs, c'est un oligopole, deux oligopoles qui négocient entre eux. Alors, effectivement, il y a une frange de petites PME que ça n'avantageait pas. Mais derrière, ça concerne que très peu de monde. Et en général, les industriels sont peu nombreux, les distributeurs sont peu nombreux, et donc ils trouvent des formes d'arrangement.
Encore un mot avant le journal de 8h, on apprenait que l'inflation continuait de reculer hier. Est-ce que tous ces problèmes qu'on a évoqués depuis le début du débat ne vont pas se régler tout seuls, du coup, puisqu'on a des projections aujourd'hui à 2,9%, enfin 3% sur un an? Dominique,
alors,
rapidement.
La bonne nouvelle, c'est que l'inflation baisse, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. La question qui est derrière, c'est est-ce que la Banque Centrale Européenne doit aller un peu vite sur la baisse des taux pour que la machine économique reparte? Non, les problèmes de l'agriculture sont plus profonds que la hausse des prix.
Oui.
Que
vous faites confiance à la main invisible du marché, Thomas Pancher?
Absolument pas. Les agriculteurs manifestent constamment. Les gilets jaunes, c'était en 2018, c'était avant l'inflation. Donc ça reviendra sur le tapis, mais avec une inflation à 2%.
Merci Thomas Pancher. Merci Dominique Seux. C'était le débat éco. À vendredi prochain.